la responsabilité sociale des entreprises, les valeurs de la société à mission font qu'on peut avoir un vrai levier d'innovation en fait sur les solutions qu'on va proposer.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Machine à Sens, un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. Dans La Machine à Sens, nous allons à la rencontre de dirigeants d'entreprise, de managers de mission, qui nous expliquent leur motivation et leur cheminement vers la société à mission, mais également d'experts et d'auteurs qui viennent éclairer un sujet social, sociétal ou environnemental. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter Jean-Pierre Richard, président d'ES2I, et Sandrine Benassan, adjointe à la direction marketing. Alors en fait, c'est pas vraiment une première rencontre, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec Jean-Pierre l'an dernier pour la newsletter, à l'époque où les entretiens étaient publiés à l'écrit. En revanche, c'est votre première rencontre avec ce nouveau format du podcast, un an après. Dans ces épisodes, je reprends contact avec les personnalités rencontrées un an plus tôt, pour prendre le pouls de l'entreprise, de sa mission et du déploiement d'action. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer que quand on passe société à mission, il y a un jour d'après. L'impact sur ES2I correspond plutôt à une inflexion. Ils ont développé une démarche RSE de longue date, mais pas celle qui reste aux abords des murs de l'entreprise. Elle touchait déjà toute la stratégie. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Et en plus, ils sont ancrés dans une dynamique locale très forte. ES2I est basé à quelques kilomètres de Montpellier, et pour ceux qui suivent la newsletter, vous savez que c'est une sorte de temple de la société à mission. Avec Jean-Pierre et Sandrine, nous sommes revenus sur les actions que ES2I a mises en place, plus particulièrement la définition d'objectifs opérationnels et les actions et les responsabilités qui incombent à chaque membre du comité de mission. Il donne également un exemple d'un produit créé pendant la pandémie qui s'inscrit parfaitement dans leur raison d'être. Le ticket digital. Côté gouvernance, ES2I a fait le choix original d'avoir un comité de mission 100% interne. Mais justement, on discute de son ouverture à venir pour accueillir des clients, des partenaires, voire des acteurs publics. On a également abordé le sujet de l'organisme tiers indépendant avec une leçon que je trouve assez utile. Choisir son OTI relève d'un alignement de valeurs. Et puis on finit sur Georges Brassens. Franchement, si vous fallait une dernière raison pour écouter, je pense que celle-ci est de poids. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandrine.
Bonjour Vivien.
Bonjour Vivien.
Ravi de vous accueillir pour le podcast de La Machine à Sens. Alors c'est le premier épisode de cette série de Un an après, puisque Jean-Pierre, vous étiez le premier que j'ai eu le plaisir d'interviewer l'an dernier dans une version écrite de la newsletter La Machine à Sens. Et donc, un an plus tard, l'idée, c'est de voir un petit peu où vous en êtes de votre mission, puisque ES2I est passé société à mission il y a déjà quelques temps, vous avez un petit peu de recul, et c'est avec plaisir que j'accueille aussi Sandrine, qui apportera son regard sur la mission, qui viendra compléter et agrémenter aussi notre entretien avec quelques éléments que je suis sûr intéresseront nos auditeurs. Alors peut-être pour commencer, vous avez mis en place la société à mission il y a déjà un peu plus de 12 mois maintenant, un comité de mission, etc. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu justement comment ça s'est passé après la constitution du comité de mission, les principales actions, comment ça s'est structuré un petit peu concrètement en interne?
Au début, ça a été de... on avait affirmé notre raison d'être, bien sûr, bien avant de passer à mission, et ça a été de sortir les objectifs stratégiques, disons, qui sont liés fortement à la raison d'être, à part un, et après de décliner ça en objectifs opérationnels. Et là, effectivement, il y a eu pas mal d'échanges à ce niveau-là pour définir les objectifs opérationnels et un petit peu définir entre nous comment... on allait effectivement expliquer les actions qu'on avait faites dans ces objectifs opérationnels. Et ensuite, on a réparti, nous, on a notre comité de mission qui est que des personnes internes, hein, chacune sous une thématique particulière, et en fonction des objectifs stratégiques, des objectifs opérationnels, on a réparti ces objectifs à chaque personne du comité de mission, des fois deux personnes, qui ont travaillé dessus pour effectivement l'expliquer pour aussi rédiger une partie du rapport de mission et aussi décliner toutes les actions qui étaient liées à ces objectifs. Voilà, ça a pris pas mal de temps d'arriver à se caler. Et après, c'est Sandrine qui a fait le récap de tout, qui a récupéré tous les écrits de tout le monde, voilà, et ensuite qui a fait le rapport de mission.
Et au niveau des objectifs opérationnels, justement, donc vous disiez donc chaque personne du comité de mission a un petit peu ses axes phares liés à son métier, et ensuite chacun a déterminé, a défini ses propres objectifs opérationnels, ou ça s'est fait de manière assez collégiale?
Non, on l'a fait, ça a été assez collégial au début, ça. Nous, on avait, par rapport à notre raison d'être, donner du temps à l'essentiel et innover pour un accueil serein, personnalisé et en toute sécurité. On l'a retiré des objectifs opérationnels qui sont faire gagner du temps à nos clients et à leurs clients. Donc ça, c'est principalement nos actions dans nos produits, nos solutions. On est toujours porté pour, même avant la mission, hein, à avoir des produits qui font gagner du temps à nos clients et à leurs clients. Et donner un maximum de fluidité, de sérénité aux agents vendeurs et aux clients, pareil, que notre produit donne de la sérénité, de la fluidité, et aussi de la sécurité. Voilà, donc ça, c'est tiré directement de la raison d'être. Et aussi, ce qu'on avait affirmé quand on a déposé les statuts de la mission, c'était un objectif un peu plus haut, plus général, participer à changer le monde et à le rendre plus éduqué, plus éthique, plus responsable, plus universel, avec toujours un souci d'impact positif sur nos actions sur la société. Donc on a retiré de là deux objectifs opérationnels. Faire vivre déjà nos collaborateurs dans un ESI libéré, éduqué et moteur dans ces actions de RSE et de QVT. Et tenir compte et aller au-delà du commun avec toutes nos parties prenantes. Donc, effectivement, de toute façon générale, toutes nos parties prenantes, d'essayer, disons, de les prendre en compte encore plus que le niveau qui paraît normal.
Et au niveau de ces objectifs opérationnels, je le vois avec certaines entreprises à mission, ce qui est parfois un petit peu difficile, c'est de définir des indicateurs. Vous avez réussi, vous, à définir ces indicateurs? Comment vous y êtes pris?
On a mis surtout des actions qu'on a faites. Après, les indicateurs, je ne sais pas, Sandrine, à toi, peut-être, je ne sais pas si on a mis...
Alors, les indicateurs, effectivement, c'est un sujet qui va venir dans un deuxième temps, puisque, comme vous le disiez, Vivien, on est société à mission depuis 18 mois maintenant, donc est venu le temps de l'audit de S2I par un cabinet donc certifié OTI pour venir nous auditer. Et justement, le travail également qu'on va mettre en place avec ce cabinet, c'est de définir maintenant des indicateurs, les suivre avec un process pour pouvoir, comme ça, à chaque audit, mesurer nos actions, en fait, et leurs résultats. Donc ça, c'est complètement, ça va être lié à cette phase d'audit prochainement.
D'accord. Bon, bah ça, je vous souhaite bien du courage, parce qu'effectivement, c'est une partie qui n'est pas toujours évidente, d'autant qu'on est parfois sur des objectifs qui finalement sont assez qualitatifs, donc c'est pas toujours facile de trouver les bons indicateurs. Si on regarde un petit peu l'impact que cette mission a pu avoir sur l'entreprise, avant qu'on commence, Jean-Pierre, vous parliez pas mal de justement l'impact que ça a pu avoir sur les produits, sur le fait que à tout moment de la conception, de la réflexion, etc., sur les produits, la mission est partie prenante, si je puis dire, de la réflexion. Comment ça s'est passé, cette évolution naturelle probablement, mais quand même.
Alors, on a toujours été dans ce schéma-là. C'est-à-dire que les produits qu'on fait, on n'a jamais fait un produit qui était là pour gagner de l'argent, mais qui servait à rien et qui était négatif pour nos clients et leurs clients. Mais je crois que c'est encore plus passé dans l'ADN de l'entreprise que chez nous, les gens savent que quand on fait un produit, on le fait pour rendre service, pour faire gagner du temps, pour donner de la fluidité, de la sérénité, de la sécurité. On est vraiment axé sur ça. Et on n'a pas de produits gadgets, de produits qui sont jolis, etc., mais qui ne donnent, qui au contraire feraient ou le contraire, ou n'agiraient pas dans les sens de notre objectif. Donc on a toujours été sur cette longueur d'onde, quoi.
Il y a peut-être un point, parce que c'est vrai que vous avez un métier qui est quand même assez spécifique, que finalement personne ne voit, ou en tout cas personne ne s'en rend forcément vraiment compte. Les gens le touchent, effectivement, mais justement, est-ce que vous pourriez donner un exemple, peut-être un exemple récent, justement, d'un produit que vous avez pu lancer? Je sais que vous avez pas mal réfléchi avec tout ce qui est distanciation sociale, prise de rendez-vous, etc. Peut-être un exemple récent pour que ça puisse bien parler aussi à nos auditeurs.
Oui, bien. Moi, j'aimerais parler plus particulièrement de l'essor qu'a connu finalement la mise en place du ticket digital par ES2I, qui est donc un ticket qu'on a déporté. Vous parliez, Vivien, de malheureusement cette période de crise sanitaire avec la distanciation sociale, etc. Ça nous a amené à ES2I à réfléchir sur ces possibilités-là avec, par un scan d'un QR code, en fait, la possibilité de s'insérer de façon virtuelle dans une file d'attente. Donc, on n'a plus besoin d'être sur place pour être dans cette file d'attente. Donc, ça répond justement aux critères de la distanciation sociale. La sécurité, toujours comme le disait Jean-Pierre, ça fait partie de notre mission, ça fait partie de notre raison d'être. Et du coup, ce produit, pour moi, symbolise vraiment ça. C'est un produit qui a connu un beau succès, justement, avec la pandémie, malheureusement, parce que il répondait à ces critères de sécurité, justement, et de rassurer les personnes qui devaient se rendre donc dans un lieu. Ce produit continue à faire des émules, on va dire, et à être plébiscité par nos clients, puisque récemment, c'est par exemple les boutiques Nespresso qui l'ont mis en place. Les dernières installations là sont aux États-Unis. Une boutique à New York sur Madison Avenue qui vient de mettre en place le procédé. Donc pour moi, c'est vraiment le produit qui symbolise ça finalement.
Et en réalité, c'est une fonctionnalité plutôt, puisque le produit permet de prendre un ticket digital à distance, c'est-à-dire de chez soi. Le matin, j'ai une analyse à faire par exemple, et je prends un rang, et ensuite on me donne une heure pour venir. Je peux reculer cette heure, je peux pas l'avancer si je veux, mais le produit permet aussi aux gens de venir directement et de prendre un ticket sur une borne en arrivant, et aussi d'arriver sur rendez-vous. Donc c'est les trois actions, et notre produit permet de faire en sorte qu'il n'y en a pas qui soient lésés par rapport aux autres. Voilà, c'est ça la grosse intelligence. Celui qui vient et qui n'a pris ni rendez-vous ni ticket virtuel, il va pas passer derrière les autres, on a réservé des plages pour lui et elles sont modulables. Donc ça répond bien à notre raison d'être et à nos objectifs, voilà.
Et donc là, on était très, très centré produit. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un impact aussi à d'autres niveaux? Je pense par exemple, ne serait-ce qu'à l'état d'esprit en interne, une émulation interne liée à la mission.
L'état d'esprit, je vais laisser Sandrine là, juste après, mais moi, juste deux mots. L'état d'esprit est bon à ES2I, hein. Enfin, à mon avis, je pense que Sandrine le dira pareil. On a un bon état d'esprit. Bon, déjà, on est entreprise libérée, on a travaillé beaucoup sur les RSE, sur la qualité de vie au travail, on a fait des plans d'action ambitieux qu'on a remplis. Enfin, bien sûr, ça ne s'arrête jamais, hein. Et la mission, je pense qu'il y a une bonne ambiance à ES2I. Il n'y a pas d'effets négatifs, tout le monde vient travailler, enfin, beaucoup en télétravail maintenant, mais enfin, vient travailler avec plaisir. Je vais laisser Sandrine continuer, mais enfin, si tu dis pas comme moi, ça ira pas. Non, je rigole.
Non, c'est tout à fait ça. On s'est rendu compte avec Jean-Pierre et les autres membres du comité de mission ou du comité de direction qui a aussi un impact sur les actions, que en fait c'est un cheminement qui est tellement naturel pour ES2I, qui fait partie de l'histoire de ES2I, puisque ça fait déjà un moment qu'on a mis en place des actions RSE au travers d'un plan RSE qui avait eu beaucoup d'impact en fait sur les collaborateurs. collaborateurs étaient très motivés, avaient eu énormément d'idées à nous soumettre pour nos plans d'action RSE. Et du coup, la société à mission, on s'est rendu compte que voilà, c'est un cheminement qui est naturel. Les valeurs sont bien assimilées et intégrées par les collaborateurs. Ils se retrouvent d'ailleurs dans ces valeurs. Et du coup, voilà, l'impact positif, c'est surtout là, c'est qu'on continue à être en phase avec nos valeurs, en phase avec notre raison d'être. Pour la petite histoire, la raison d'être d'ailleurs a été soumise à un vote complètement ouvert. Jean-Pierre parlait des principes de l'entreprise libérée qu'on applique à ES2I. C'est vrai qu'on a soumis la phrase de la raison d'être, on a eu les retours des collaborateurs, ça a vraiment été construit ensemble avec tous les collaborateurs.
C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est finalement quand on passe entreprise à mission, il peut y avoir, et je suis le premier à le dire souvent dans la newsletter, ça peut avoir un effet assez transformant pour l'entreprise. Mais c'est vrai que finalement pour vous, ça n'a pas eu forcément cet effet transformant, c'est plus, ça fait partie de l'évolution de tous les efforts que vous faites par ailleurs. Et comme vous le disiez, Jean-Pierre, c'est jamais fini. Et donc finalement, la passée entreprise à mission, pour vous, c'était une évolution assez naturelle qui participe d'autres efforts que vous aviez déjà lancés et d'autres efforts que vous allez lancer par la suite.
C'est ça, c'est vraiment de la continuité de l'entropie libérée, de la RSE, la QVT. C'est vraiment vraiment la continuité complète.
Sandrine, c'est intéressant ce que vous avez mentionné, quelque chose qui est parfois une difficulté pour les entreprises à mission, c'est l'articulation entre le comité de mission et par exemple le comité de direction, les liens qu'il peut y avoir, etc. Comment ça se passe au sein de S2I?
Alors ça se passe très bien parce que ça continue à être fait de façon naturelle. C'est vraiment c'est un terme que... C'est vrai, je le reprends volontiers de nombreuses fois parce que ça se fait vraiment comme ça. Et on trouve notamment au sein du comité de mission certains membres du comité de direction qui s'y sont impliqués par rapport à leurs fonctions. Et du coup, voilà, ils sont dans cet esprit, dans cet état d'esprit, dans cette logique, et ça se fait complètement naturellement. Il n'y a pas une double articulation, il n'y a pas une double prise de décision, si vous voulez. Et c'est ça qui est assez agréable finalement dans la façon dont ça se passe à ES2I, c'est que l'un ne va pas à l'encontre de l'autre finalement. Et ça s'imbrique parfaitement dans les décisions stratégiques du comité de direction, parce que c'est la vie de S2I, ce que disait Jean-Pierre, c'est jamais fini, ça a commencé il y a déjà 40 ans, la belle histoire a commencé il y a déjà 40 ans, et elle continue toujours sur ses valeurs, ses piliers, maintenant sa mission et sa raison d'être, et finalement le comité de direction n'est pas du tout décorrélé de cette dynamique, il est même intégré dans cette dynamique par le fait que certains membres, pas tous les membres évidemment, mais certains membres du comité de mission sont aussi au comité de direction.
Et puis on avait aussi un historique, je crois que on a toujours favorisé des échanges chez nous, beaucoup de collaboratifs, beaucoup d'échanges et aussi des pôles. On a énormément de copiles et de pôles qui s'occupent de sujets bien particuliers avec des membres, des fois il y a la direction ou pas, ou des collaborateurs qui s'occupe de sujets particuliers et qui les gère entièrement. Donc on a cette culture-là de certaines autonomies de prise de décision, de réflexion par des groupes de personnes.
Effectivement, on en avait parlé l'an dernier effectivement de ces différents pôles et de l'autonomie de prise dans la prise de décision. Je me souviens effectivement. Si on regarde un petit peu les difficultés ou les challenges que vous avez pu rencontrer depuis un an maintenant, ce seraient lesquels?
La transformation des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels n'a pas été très compliquée, puisqu'ils sont directement tirés de notre raison d'être, plus ou moins. Mais le temps de que tout le monde comprenne bien, de répartir aussi, on a réparti le travail pour travailler sur, pour faire le rapport de mission, pour travailler sur l'objectif, pour également y lier les actions qui avaient été faites par rapport à ces objectifs. On a réparti ça sous les membres du comité de mission. il y a eu un petit moment d'explication, il y a eu peut-être, je sais pas, un petit mois d'échange d'hiver pour bien se caler, mais après tout le monde a bien compris d'où ça venait, ce que c'était, etc. Et on les a définis plus ou moins après, on les a ajustés ensemble ensuite. Mais ils étaient directement tirés de notre raison d'être, hein, pratiquement, à part un qui est un peu plus général.
C'est vrai que ça a été la grosse partie, en fait, de mettre ça un peu plus au carré pour pouvoir finaliser un rapport de mission avec que chacun réfléchisse justement à sa partie, aux idées qu'il pouvait avoir pour mettre en avant, etc. Donc ça a été vraiment la plus grosse partie. Et après, un petit, vous parliez de challenge, il y a un petit challenge quand même pour nous qui n'étions pas au fait de tout ce qu'il fallait faire pour l'audit, etc. On a parlé de l'audit au début du podcast. Il a fallu choisir justement notre cabinet certifié, notre OTI, pour pouvoir passer cet audit. Et c'est vrai que ça aussi, ça prend du temps. Il faut le faire consciencieusement et surtout, il faut trouver l'OTI. Nous, on s'est rendu compte, c'était une chose qu'on ne savait pas avant, mais qu'il faut trouver l'OTI qui corresponde finalement à nos valeurs et à notre raison d'être. Et ça, parfois, on se rend compte qu'avec certains cabinets, on a moins d'affinité qu'avec d'autres. Donc voilà, ça a été un mini challenge, on va dire, mais qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense, pour toutes les sociétés à mission qui se lancent là-dedans, dans ces statuts, et qui après vont passer par cette phase d'audit. Il faut bien prendre le temps de choisir son OTI.
C'est intéressant parce que comme quoi, hein, finalement, c'est presque une forme de partenariat avec l'OTI et à créer, et ce qui est assez compréhensible, hein, parce que c'est vrai que c'est ce type d'audit est pour le moment totalement inédit, même pour les OTI qui, pour certains, ont pu déjà faire quelques audits, mais globalement, ça reste quand même à défricher. Donc c'est intéressant d'avoir ce retour-là, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir du mal à trouver un OTI et de trouver le bon OTI. Très bien. Par rapport aux actions à venir pour 2022, on va déjà se focaliser sur 2022. On verra si on fait un et dans deux ans l'année prochaine. Mais déjà pour 2022, une de vos grandes actions, si j'ai bien compris, c'est l'ouverture du comité de mission. Puisque vous aviez pris la décision initialement de ne pas l'ouvrir, de n'avoir que de l'interne. Et comment est-ce que vous abordez cette ouverture du comité de mission ?
Alors oui, effectivement, ce sera une de nos actions phares, Vivien, pour cette année 2022. Comme le disait Jean-Pierre, on est d'abord parti sur un comité de mission interne qu'on a décidé d'ouvrir à nos parties prenantes. On travaille déjà énormément avec eux, comme le disait Jean-Pierre, sur les produits, au niveau de l'innovation des produits, des fonctionnalités attendues, etc. Et on se rend compte de plus en plus que nos partenaires, que ce soit nos clients, mais que ce soit aussi nos fournisseurs, ils ont également une appétence pour tout ce qui est la responsabilité sociale des entreprises, justement la qualité de vie au travail. Ce sont des thèmes qui les intéressent. Et du coup, on a cette combinaison, cette dynamique qui peut être extrêmement fructueuse. Et donc, on va aller vers eux encore plus qu'on ne le fait d'habitude, pour leur présenter nos actions, leur présenter notre vision, nos valeurs, la façon dont on peut concilier tout ça avec eux, et en espérant les amener avec nous dans cette aventure pour non seulement avoir ce levier d'innovation, parce que moi je reste persuadée que la responsabilité sociale des entreprises, les valeurs de la société à mission font qu'on peut avoir un vrai levier d'innovation en fait sur les solutions qu'on va proposer. Donc voilà, ça c'est la grosse action pour nous pour 2022.
Donc là, l'idée, c'est de l'ouvrir à des clients. Et Jean-Pierre, vous me parliez aussi avant le podcast, éventuellement à quelques partenaires clés, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Par exemple, on travaille depuis 20 ans avec un ESAT qui fabrique nos produits, nos bornes, nos afficheurs, en fait tout ce qui est mécanique et qui intègre l'électronique dedans, avec qui on a de très bonnes relations depuis 20 ans. Hein. Et eux, voilà, ils sont d'ailleurs venus à la journée entreprise. Ils ont présenté les SAT, ça fait 20 ans que je travaille avec, mais ils ont bien présenté les SAT à tout le monde, les actions qu'ils faisaient, etc. Nous, on est fiers de travailler avec eux et de faire travailler des handicapés aussi qui fabriquent nos produits. Et eux, je crois que c'est des partenaires très anciens qui nous connaissent bien. On va beaucoup plus loin que la fabrication, puisque ils envoient nos produits directement chez les clients après qu'on ait fait des tests. Quand on a des gros envois, quand on équipe par exemple toutes les CPM de France, ça part directement de l'ESAT, ça vient pas chez nous. On va faire la réception chez eux, on fait les tests finaux chez eux, ça part de chez eux. Et pareil, ils font la mécanique, mais aussi ils intègrent l'électronique dedans. Ils font les premiers tests. Et nous, on va faire la réception chez eux, on fait les tests complémentaires avant de rapatrier le matériel. Donc, ils font plus que faire de la mécanique, ils vont vraiment bien plus loin. Et ça s'est fait petit à petit, et donc on a une coopération parfaite. Donc, c'est bien de travailler avec eux.
C'est un partenariat, c'est presque une. Sans eux, vous ne pourriez pas faire ce que vous faites, et sans vous, ils ne pourraient pas aller aussi loin, j'imagine, dans les produits qu'ils font.
Et même, ils sont que chez eux, c'est-à-dire lorsqu'on a des prévisions de commandes, mais pour dans 6 mois, tout ça, quand ils ont des trous, ils fabriquent et ils les gardent, et après on les a. Voilà. Il y a tout un accord avec eux qui s'est fait au fil du temps, par la confiance et par l'appréciation de chacun.
Donc là, l'idée, si je résume un petit peu, l'objectif de l'ouverture, c'est aussi d'associer des partenaires assez historiques, donc des clients de longue date, oui. Des partenaires de longue date, pour à la fois parce que c'est des personnes qui connaissent bien l'entreprise, mais également des personnes avec lesquelles vous pouvez avoir un dialogue sur le produit, mais également tout ce qui est la mission, et vous faire progresser aussi dans votre mission.
Et aussi institutionnel. Bon, on va réfléchir entre la région, la métropole. Il y a des institutionnels avec qui on travaille beaucoup, avec qui on est en rapport, qui sont intéressés par eux aussi pour la RSE et la mission que les entreprises développent ces valeurs. Donc, c'est bien de les faire participer aussi. Voilà.
On arrive presque au terme de cet épisode, et comme chaque missive de la machine à sens se conclut par une chanson, un morceau de musique, pas forcément une chanson, mais en tout cas un morceau de musique, je me suis dit que ça valait le coup aussi de le faire dans les podcasts.
Ok, pour moi, le son, c'est un son un peu plus vieux, mais qui a du sens. C'est Georges Brassens, c'est le centenaire de la naissance de Georges Brassens. Il est pas loin de chez nous, il est à 7. Nous sommes à quelques kilomètres de 7 pour le siège social de S2I. Et la chanson que j'ai choisie, c'est Les copains d'abord.
Parfait, merci beaucoup Sandrine. Et Jean-Pierre ?
Joker, voilà. Je suis pas très bon pour les chansons.
Pas de souci. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange. Et ce qui est bien, c'est que en 12 mois, il se passe pas mal de choses, et très clairement, la mission est complètement intégrée dans la vie de l'entreprise, et ça, je trouve que c'est un signe qui est vraiment hyper intéressant, et je pense stimulant aussi pour les entreprises qui veulent se lancer, et même celles qui viennent tout juste de se lancer, qui se disent ok, maintenant on est passé entreprise à mission, qu'est-ce qui va se passer dans 12 mois, est-ce que ça aura un impact ou pas? Clairement, en tout cas, ça crée une dynamique. Si elle n'est pas déjà existante, elle était déjà existante chez vous, et ça permet de l'entretenir. En tout cas, un grand merci à vous deux. Je précise que le rapport de mission dont on a un petit peu parlé dans nos échanges est disponible sur le site de S2I, et comme il n'y en a pas beaucoup pour le moment, n'hésitez pas à le consulter, il est bien fait. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Un an après, et d'ici là, Jean-Pierre, Sandrine, merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup Vivien, à très bientôt.
Merci à toutes et à tous de votre écoute. J'espère que cet épisode de la Machine à Sens vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander, c'est de me donner quelques étoiles, ça monte jusqu'à 5 sur Apple Podcast ou sur Spotify. Alors bizarrement, ça ne marche que sur smartphone. C'est vraiment important pour améliorer le référencement et pour que d'autres découvrent ce podcast. Pour ne rien rater des prochains épisodes, le mieux, c'est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et si vous avez envie d'échanger sur le sujet des entreprises à mission, vous pouvez me retrouver sur la newsletter de la Machine à Sens, machineasens.substack.com ou sur LinkedIn. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.